c'est l'heure des informations. Bonjour Anne Fauquemberg.
Bonjour. Bonjour Dominique.
Bonjour à tous. Elle venait d'être rapatriée en France après une opération à Bagdad. Elle semblait même avoir repris quelques forces. La journaliste franco-suisse Véronique Robert est décédée ce matin à l'hôpital Percy. Elle avait été touchée en début de semaine dans l'explosion d'une mine dans la vieille ville de Mossoul en Irak. Troisième journaliste à avoir perdu la vie dans cette explosion. Christophe Deloire, le secrétaire général de Reporters sans frontières, réagira au début de ce journal. Les correspondants de Radio France Internationale débrayent aujourd'hui et demain dans le monde entier. En cause, les futurs accords sociaux de l'entité France Média Monde, le groupe qui chapeaute RFI. Nous entendrons leur porte-parole, Pascal Guéricola. Un pacte mondial pour l'environnement en train de s'écrire à la Sorbonne ce samedi, un texte qui pourrait être plus contraignant que celui de la COP21 qui a du plomb dans l'aile après la sortie des États-Unis. Sarah Petitbon va nous l'expliquer. Et puis nous irons à Londres où l'évacuation des 5 tours de la municipalité de Camden se poursuit. Évacuation en urgence pour raison de sécurité, mais plusieurs habitants refusent de partir. Marina Daras sera en direct avec les explications. Le groupe France Télévisions fait part de sa très grande tristesse ce midi. La journaliste franco-suisse Véronique Robert a succombé à ses blessures. Touchée par l'explosion d'une mine dans la vieille ville de Mossoul lundi dernier, elle avait été rapatriée dans la nuit de jeudi à vendredi à l'hôpital militaire Percy, près de Paris. Véronique Robert réalisait un reportage pour le magazine Envoyé spécial de France 2 aux côtés de deux autres journalistes, l'Irakien Bakhtiar Haddad et le Français Stéphane Villeneuve, également tué dans cette explosion. Christophe Deloire, le secrétaire général de Reporters sans frontières, réagit à cette brusque nouvelle avec Benoît Bouscarel.
Je suis sous le choc parce que je viens d'apprendre la nouvelle. Je pensais que l'état de santé de Véronique Robert s'était beaucoup amélioré. Elle avait été transférée à l'hôtel militaire Percy, près de Paris, depuis la base américaine à Bagdad où elle avait d'abord été opérée. Les choses semblaient nettement s'améliorer. Elle a reçu, je crois, la visite de ses enfants hier. À l'instant, apprendre son décès, des suites de ces blessures d'une explosion de mine à Mossoul, c'est évidemment extrêmement triste. Un grand reporter me disait il y a quelques jours, j'en ai marre de voir la liste s'allonger de mes amis qui ont été tués ou qui ont été victimes d'explosions lors de reportages de guerre. Malheureusement, cette liste, elle continue à s'allonger, elle s'allonge ce matin et il y a en bas le nom de Véronique Robert, cette journaliste suisse qui était basée à Dubaï, et qui était parti en reportage pour Envoyé spécial pour traiter de la prise de Mossoul, vraisemblablement la prise de Mossoul par les troupes irakiennes.
Est-ce qu'on en sait plus, Christophe Deloire, 5 jours après, sur les circonstances de l'explosion ?
C'est un événement très tragique, évidemment. Les journalistes étaient entre deux lignes des troupes irakiennes. Ils étaient allés aux avant-postes. Ils s'étaient dit que c'était... assez dangereux là où ils étaient, donc ils avaient justement pris l'initiative de revenir en arrière en reprenant le chemin qu'ils avaient pris à l'aller. Mais manifestement, l'un des journalistes s'est un peu écarté de quelques pas, peut-être de 2 mètres, du chemin initial. Et c'est ainsi qu'une mine a été déclenchée, explosée et a entraîné la mort de 3 journalistes. Un journaliste kurde, un journaliste français et Véronique Robert qui est suisse.
Christophe Deloire, le secrétaire général de Reporters sans frontières avec Benoît Bouscarel. Les correspondants à l'étranger de Radio France Internationale seront muets aujourd'hui et demain dimanche. Le collectif des pigistes souhaite attirer l'attention sur la précarisation constante des journalistes installés aux quatre coins du monde. RFI emploie 585 pigistes, dont 400 à l'étranger. Ce sont eux qui ont débrayé à partir d'aujourd'hui. Nadine Epstein a recueilli le témoignage de Pascal Guéricola qui a participé à 2 réunions avec la DRH et les syndicats ce mois-ci et qui collaborent avec RFI depuis plus de 20 ans.
Plusieurs parmi nous, plusieurs journalistes ont été obligés ces dernières années d'abandonner leur métier, de ne plus être correspondants, de ne plus couvrir certaines zones de la planète parce que les conditions de travail sont trop difficiles. Alors je vous en lance quelques-unes en rafale. Depuis 10 ans, nous demandons une revalorisation de nos reportages, une revalorisation des tarifs de ces reportages-là et nous n'obtenons aucune assurance de la direction. Pourtant, le coût de la vie augmente. Plusieurs des pigistes et des correspondants se trouvent dans des zones où leur sécurité est difficile, donc ce qui occasionne également des coûts importants. Donc, de fait, nous pouvons de moins en moins faire notre travail et nous ne bénéficions pas de la couverture sociale alors que nous travaillons depuis plusieurs années avec Radio France Internationale. Donc, nous avons envie que cette situation s'améliore. France Média Monde est en train de revoir les accords avec ces entités dont fait partie Radio France Internationale. Et pour l'instant, nous ne serons pas compris dans ces accords d'entreprise. Nous aurons un texte à part, paraît-il, mais dont nous ne connaissons absolument pas la nature. Mais nous sommes inquiets. Quel sera notre futur statut au sein de cette grande entité, sachant que nous sommes déjà dans une situation extrêmement précaire.
Des propos recueillis par Nadine Epstein. En Chine, 141 personnes sont portées disparues après un glissement de terrain dans un village du sud-ouest du pays, au Sichuan, près de la frontière tibétaine. L'incident a été causé par les fortes pluies de ces derniers jours. Les pompiers annoncent au moins 5 morts. Au Royaume-Uni, c'est l'une des nombreuses conséquences de l'incendie meurtrier qui a ravagé la tour Grenfell de Londres la semaine dernière. La municipalité de Camden, au nord de la capitale, organise depuis la nuit dernière une opération d'évacuation de 5 tours d'habitation, 800 appartements concernés, plusieurs milliers de personnes. Il s'agit de réaliser des travaux urgents de sécurité incendie, opération suivie par notre correspondante à Londres, Marina Darras. Bonjour.
Bonjour.
Les habitants ont été prévenus à la toute dernière minute. Actuellement, plusieurs dizaines d'entre eux refusent de quitter cet ensemble de 5 tours connu sous le nom des Chalcotts Estate.
Oui, il y a encore 83 appartements qui n'ont pas été évacués hier soir. Les habitants ont tout simplement refusé de partir dans l'urgence. Les pompiers tentent maintenant de les convaincre de quitter leur domicile, mais pour l'instant, ils sont toujours à l'intérieur. Et il se peut que la police les force à partir un peu plus tard si la situation n'évolue pas. Mais les habitants qui, eux, ont été évacués hier soir ont été relogés dans des chambres d'hôtel. Certains ont dû passer la nuit sur des matelas gonflables dans une salle de sport du quartier, mais tout le monde devrait être relogé aujourd'hui.
Le gouvernement a répertorié cette semaine 600 immeubles avec le même revêtement que les parois de la tour Grenfell, revêtement qui a contribué à propager l'incendie meurtrier de la semaine dernière. Parmi ces 600 bâtiments, 27 ont été particulièrement ciblés par les pompiers. Ça veut dire qu'on pourrait voir d'autres évacuations ces prochains jours ?
Oui, effectivement, la municipalité de Camden a annoncé qu'elle remplacerait rapidement le revêtement thermique externe de ces 5 immeubles. Mais hier soir, elle a reçu un rapport d'une brigade de pompiers qui était chargée d'évaluer la sécurité de ces immeubles et qui s'inquiétait pour d'autres raisons, notamment l'isolation des conduites de gaz et l'accumulation de ces risques, a donc poussé la municipalité à évacuer d'urgence ces immeubles pour commencer au plus vite les travaux et on pourrait voir d'autres immeubles être évacués de la même manière.
Merci Marina Darras pour vos explications. Vous étiez en direct de Londres. En Italie, la capitale, Rome, est passée entre les mains du mouvement 5 étoiles il y a tout juste un an. Mais le parti antisystème du comique Beppe Grillo n'a pas confirmé l'essai au municipal partiel d'il y a 15 jours. Et à Rome, la maire Virginia Raggi, qui voulait ramener la légalité et la transparence, est actuellement cernée par les affaires. C'est un reportage signé de notre correspondante permanente, Mathilde Imberti.
67% des Romains ont voté pour Virginia Raggi. Ils sont un an plus tard autant à se déclarer insatisfaits. La ville se dégrade, commandent ces deux femmes, l'une active, l'autre retraitée.
Moi j'habite dans l'est de Rome, c'est sale, plein d'ordures, rien n'a changé. Pour les transports non plus, aucune amélioration.
Ils promettent toujours, mais après plus rien. Rome est dans un état lamentable, pire que Naples.
Virginia Raggi se présentait avec un plan zéro déchet et un objectif de trier les trois quarts des ordures. Aujourd'hui, bien loin d'être atteint. Le réseau de transport souffre de vétusté. On compte 300 pannes par jour dans les bus. Il faut du temps, réplique l'élu.
Nous changeons petit à petit le système. Nous avons lancé des appels d'offres pour toute une série de projets. Nous ne lâchons rien. Et si je devais m'attribuer une note, 7,5 sur 10.
L'administration est paralysée, relèvent les observateurs. Virginia Raggi a mis des mois à former son équipe et n'a toujours pas de chef de cabinet. Le politologue Giovanni Orsina, Université Louis.
Et jusqu'à janvier, la Raggi a eu beaucoup de problèmes pour bâtir son équipe. Il y avait des problèmes judiciaires. Il n'y avait pas suffisamment de personnes d'expérience qui voulaient travailler pour cette administration. Et la communication de ces cauchemars était très mauvaise pour le mouvement 5 étoiles. Après janvier, ils ont dit à la Raggi, Tu fais rien, tu dis rien, nous cherchons à te faire oublier par les Italiens.
À ces difficultés s'ajoutent les déboires judiciaires. Virginia Raggi est mise en examen pour abus de pouvoir et risque un procès. À ce stade, le mouvement 5 étoiles n'oblige pas l'élu à démissionner, mais une condamnation changerait tout.
Au reportage à Rome, signé Mathilde Imberti. Quel avenir pour le traité de Paris après le retrait des États-Unis? Le pacte mondial pour l'environnement qui est en train de s'écrire ce week-end à Paris pourrait être un complément, voire une alternative. 800 personnalités du monde entier, issues des sphères politiques et juridiques, sont réunies à la Sorbonne jusqu'à ce soir. On peut citer l'ancien secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, l'ancien gouverneur de Californie, Arnold Schwarzenegger, et le ministre de la Transition écologique, Nicolas Hulot. Bonjour Sarah Petitbon.
Bonjour Anne.
Ce pacte mondial apporterait de nouveaux outils pour le droit à l'environnement, le droit de l'environnement.
Pardon. Il s'agit en fait de rassembler en un seul texte les grands principes du droit de l'environnement. C'est en tout cas ainsi que Laurent Fabius, l'ancien président de la COP21, aujourd'hui président du Conseil constitutionnel, présente ce projet de pacte mondial. À la manœuvre pour l'élaboration du texte, un think tank français, le Club des juristes et une centaine de magistrats, de professeurs de droit et d'avocats issus de 40 pays. Leur objectif donc, que cet avant-projet devienne le futur grand traité international de référence en matière de protection environnementale. Le droit international de l'environnement étant aujourd'hui fragmenté en centaines de conventions, d'accords et de protocoles. L'autre grande ambition de ce texte est qu'il devienne contraignant juridiquement, permettant ainsi aux citoyens d'invoquer ce traité comme une sorte de droit opposable, ouvrant ainsi la possibilité aux citoyens de mener des actions efficaces dans des domaines comme la protection de la nature, la lutte contre la pollution ou la santé. Il pourrait aussi permettre à certains États de faire avancer leur législation dans tous ces domaines.
Et a-t-on déjà une idée du calendrier ou du processus pour adopter ce nouveau pacte?
Alors vous imaginez aisément que le chemin s'annonce long et parsemé d'embûches avant que les États signent et ratifient un tel texte. On imagine difficilement, par exemple, l'administration de Donald Trump donner son aval à un tel projet. Une chose est sûre en tout cas, un document rassemblant une trentaine d'articles sera remis ce soir à Emmanuel Macron, qui à cette occasion prononcera un discours très attendu. Il faudra ensuite que le président français forme une coalition de pays pour porter cet avant-projet devant l'Assemblée générale des Nations unies, puis qu'une commission de l'ONU s'en empare pour étudier le texte afin d'en proposer une nouvelle version. Le processus pourrait prendre plusieurs années, d'autant que d'autres projets comme la création d'un tribunal international pour l'environnement sont également à l'étude, là aussi pour dépoussiérer et rendre plus efficace ce droit international à l'environnement.
Merci Sarah Petitbon pour vos précisions. Le Salon du Bourget ouvre ses portes au grand public ce week-end. C'est l'occasion de continuer à scruter les évolution du secteur de l'aéronautique, secteur qui se porte bien avec une croissance de 5% par an. Ce midi, focus sur les innovations dans le domaine de la consommation de carburant. Le carburant, premier poste de dépense pour les compagnies aériennes dont les trajets représentent 2% des gaz à effet de serre au niveau mondial. Hakim Kasmi, vous nous expliquez comment la filière s'adapte.
Si les moteurs de nouvelle génération consomment entre 15 et 25% de moins, pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, les industriels travaillent aussi sur les biocarburants, comme le sucre de canne, la biomasse ou encore les microalgues. Si ces technologies sont certes très éprouvées et qu'elles fonctionnent à hauteur de 50% dans un avion, vu leur faible niveau de production, leur coût reste encore trop important pour être généralisé dans les avions. Pour Nicolas Gelan, responsable carburant chez Safran, la baisse passera donc par des taxes environnementales.
Ça va être de travailler sur ce qu'on appelle des mécanismes financiers. Ça va être les fameuses taxes carbone, par exemple, qui permettront peut-être dans le futur de réduire un peu ce coût. Et on travaille notamment sur l'inclusion des biocarburants dans ces mécanismes pour qu'une société, une compagnie aérienne, ait le choix entre soit acheter des crédits carbone, soit acheter des biocarburants.
En attendant, les industriels travaillent donc sur des solutions alternatives, comme le poids des sièges d'avion. David Vargas, porte-parole d'ATR, le numéro 1 mondial des avions régionaux.
Pour vous donner un ordre de grandeur, 170 kg, c'est grosso modo le poids de deux passagers, avec ses bagages, etc. Donc voilà, ça nous permet soit de mettre plus de charges utiles, soit de mettre plus de passagers, soit de pouvoir opérer sur des distances un petit peu plus longues. 170 kg, je vous rassure, dans l'aviation et dans l'aviation régionale, ça compte.
Avec un trafic qui devrait doubler dans les 20 prochaines années, il est donc très urgent que les politiques, comme les industriels, fassent consensus.
Explication signée à Kim Kasmi. Sans surprise, Richard Ferrand, le député du Finistère proche d'Emmanuel Macron, a été élu président président du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale. Le parti majoritaire est réuni aujourd'hui en séminaire au Palais Bourbon. La météo de ce samedi, un chaud soleil brille sur les régions méditerranéennes, tandis que le temps est gris et humide le long de la Manche, instable de l'Auvergne à Rhône-Alpes. 7 départements toujours en vigilance orange canicule, l'Ain, l'Ardèche, la Drôme, l'Isère, le Rhône, la Savoie et la Haute-Savoie. Journal préparé avec M. Le Chili à la technique, c'était Alexandre Dang.